الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، رأيت اليوم إن شاء الله. Aujourd'hui, nous allons faire un sujet, je dirais un peu particulier, mais il n'est pas si particulier que ça. On va aborder le thème de la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire la sunna? Et que signifie la sunna dans notre jargon? Comment on doit comprendre la sunna? Et après avoir défini la sunna, inshallah, on va voir quelques éléments de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup d'entre nous se trompent sur le fait de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va revenir à ça, inshallah. La sunna, dans le jargon, je dirais, dans la définition des fondements de jurisprudence, quand on fait les fondements de jurisprudence, la sunna veut dire les dires du prophète, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les faits et gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les acquiescements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Des fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quelque chose. Il nous dit un hadith, par exemple. Un hadith célèbre par lequel tous les kutub du fiqh, tous les livres du fiqh commencent. « Innama al-a'malu bin-niyat »« Innama likulli imri'in ma nawa » Les actes ne valent que par leur intention. Quand on va quelque part, pourquoi on y va? Est-ce qu'on y va pour demander la science? Est-ce qu'on y va pour épouser une femme? Est-ce qu'on y va parce qu'on a fait le hijra avec le prophète? C'est là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les actes ne valent que par leur intention ». Ça, c'est un hadith. C'est une parole du prophète. Donc le prophète, ça, c'est une sunna. Deuxièmement, nous avons les faits et gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa'il, il nous dit « J'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se présentait à la prière, lever les mains. » Ça, c'est un hadith. Wa'il, il a vu ça. D'autres compagnons n'ont pas vu ça. D'autres compagnons ont vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Allahu Akbar », mais il ne levait pas les mains. Et donc, vous avez cette divergence. La divergence qui nous a été rapportée par les compagnons. Les compagnons, ils vivaient avec le prophète après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à l'époque de Omar, Omar avait interdit aux compagnons de quitter Médine. Il leur a dit « Non, 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 non. Tassibouha birasi, vous me donnez la responsabilité et après vous quittez Médine. » Et moi, quand j'ai une nawazil, quand j'ai quelque chose de nouveau, comment je fais? Donc vous restez ici. Omar a exigé que les compagnons restent à Médine. Or, à l'époque de Omar, l'islam s'est répandu dans le monde. L'islam, Hicham, qui était byzantin, est devenu musulman. L'Irak, qui était perse, est devenu musulman. On est allé jusqu'à Bukhara, on est allé jusqu'au pays du Maghreb. Donc les compagnons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déplacer. Après la mort de Omar, les compagnons vont quitter Médine. Et chacun va aller dans une contrée. Certains vont aller au Cham, certains vont aller en Égypte, certains vont aller en Irak. Et chacun des compagnons va nous raconter ou va nous dire ce qu'il a vu du prophète. Or, les compagnons, qui étaient 124 000, dans la définition et le fait qu'il ait vécu avec le prophète, qu'il ait connu le prophète, qu'il ait cru en lui et qu'il est mort musulman, ça, c'est un compagnon. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu au temps du prophète, qui ont vu le prophète, mais ils ne sont pas bons musulmans. Ceux-là, ce ne sont pas des compagnons. Sur 124 000 compagnons, nous avons une vingtaine, une trentaine de compagnons savants. Pas plus. Ce sont ceux-là qui vont nous expliquer d'in. Mais les compagnons vont nous raconter ce qu'ils ont vu avec le prophète. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple. Jalsat l'istiraha. Vous savez, la petite pause qu'on fait entre la troisième et la quatrième raka'a, par exemple, dans une salade comme Dhuhr ou l'Aïcha. Cette petite pause qu'on fait. Nous avons deux hadiths. deux hadiths qui nous rapportent. Le premier nous rapporte le moussi salato. Quelqu'un qui est rentré à la mosquée et qui ne savait pas faire la prière. Et qui a fait la prière comme un coq qui picore des... Comment dire? Qui picore des graines. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appelle, dit « Viens, viens, viens ». Il dit « Oud, fa salli fa innaka lam tusalli ». Reviens, refais ta prière, parce que tu n'as pas fait la prière. Il va refaire. Il fait la même chose. Et c'est trois fois comme ça. À la fin, il dit « Rasulallah, c'est tout ce que je sais faire ». Et là, le prophète va lui expliquer comment il doit faire la prière. Et quand il lui explique comment il doit faire la prière, il lui dit « Il faut que tu aies une sérénité dans ta prière ». Mais il ne lui parle pas de cette pause qu'il y a entre la troisième et la quatrième raka. Donc nous avons un hadith qui est là. Et nous avons un deuxième hadith. Lequel ? À l'époque, à la 9e année, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va conquérir la Mecque, on appelle la 9e année « Am al-Wufud ». C'est l'année où toute la presqu'île arabique, toutes les tribus vont venir à Médine pour donner allégeance au prophète. Et il y en a qui vont rester longtemps avec le prophète. Et donc il y en a qui vont nous rapporter, pendant 15 jours, ils ont vu le prophète faire la prière. Et là, le prophète, il s'asseyait une petite assise entre la troisième et la quatrième raka. Certains savants nous disent, parce que le prophète avait pris de l'âge et qu'il était fatigué. Et donc, pour se lever de la troisième à la quatrième, il faisait cette petite pause. Donc, vous voyez, nous avons bien deux hadiths. L'un qui dit « on l'a fait » et d'autres qui dit « on ne l'a fait pas ». Ce n'est pas la peine de rentrer en polémique. Il suffit juste de savoir, tout simplement. Donc, on a dit « la sunna, c'est les paroles du prophète ». La sunna, c'est les faits et gestes du prophète. Mais la sunna, c'est aussi les acquiescements du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, acquiescement du prophète ? C'est que le prophète, quand il voyait quelqu'un faire quelque chose, s'il faisait quelque chose de haram, le prophète, il acquiesçait pas. Il se tourne et dit « arrête de faire ça, ne fais pas ça ». Un jour, le prophète, il y a quelqu'un qui s'appelle Abu Israël. Il le voit au soleil. Il était au soleil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi il est au soleil ?» Il dit « Ya Rasulallah, il a nazar, c'est une adoration votive. » Il a dit « Moi, je vais jeûner toute la journée. Je vais rester au soleil toute la journée en jeûnant. Et surtout, je ne vais pas parler. » Le prophète, il dit « Dites-lui de rentrer se mettre à l'ombre. Dites-lui de parler, parce qu'il est interdit chez nous de jeûner, de ne pas parler. Et dites-lui de continuer son jeûne. » Vous voyez, le prophète, il acquiesce pas. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux compagnons, « Fi ghazwat al-Ahzab, celui qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, et au jugement dernier, il ne doit pas s'arrêter ici, parce que les Ahzab, les coalisés, sont venus pour sortir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Médine. Et après un mois, Allah, subhanahu wa ta'ala, il envoie... L'histoire est longue, mais je résume un peu. Il envoie un rire, il envoie un vent, ils vont lever le camp, ils vont partir. Et quand le prophète, il rentre chez lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui, il y a Jibril qui vient. Il lui dit, non, non. Il veut poser son sabre, il dit, non, non, non. Benu Quraïda. Ils ont rompu le pacte. Ils ont traité avec Quraysh et les mécréants et les munafiqines pour t'extirper. Ils ont ouvert une branche. Ils ont ouvert le front de l'arrière, en fait. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va à Benu Quraïda, mais il appelle Bilal et il dit, dis aux gens de venir à la mosquée. Et les gens vont venir à la mosquée. Il dit « Salatu jami'a ». Il dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra illa fi bani Quraïda ». Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, il ne faut pas qu'il fasse la prière de l'asr qu'à bani Quraïda. Les compagnons, chacun a compris une chose. Certains ont compris qu'il faut faire l'asr absolument chez bani Quraïda. C'était une trentaine de kilomètres. Et d'autres, ils ont dit non. Le prophète, il voulait qu'on soit là-bas, mais qu'on fasse l'asr à l'heure. Donc quand l'asr est arrivé, qu'ils étaient sur le chemin, ils sont arrêtés, ils ont fait la prière. Donc ils ont dit non, 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 non. Le prophète a voulu qu'on fasse la prière là-bas. Ils arrivent à Banu Quraïda, ils trouvent le prophète. Ils disent, « Ya Rasulallah, chacun de nous a compris quelque chose. Les uns ont fait l'asr sur le chemin, d'autres ils ont fait l'asr quand ils sont arrivés. » Qu'est-ce qu'il a dit le prophète ? Il n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, acquiescement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, dans le texte, on a des interprétations. Ça veut dire que nous avons un texte, et de là, d'où viennent les divergences. Vous voyez, donc, quel est le sunnah ? C'est déjà ces trois choses-là. Quand on disait à Aïcha, comment on faisait la prière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors elle nous racontait comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se levait la nuit, et faisait la prière. Attention, dans les faits et gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qui font partie de sa vie locale, comment il vivait à Médine, comment il vivait à la Mecque. Donc, il s'habillait comme les gens de l'époque. Il mangeait comme les gens de l'époque. Un jour, le prophète est invité par un compagnon. Et il leur prépare un repas. Et le prophète, il trouve ça bon. Il y avait Khalid ibn Walid avec lui. Et le prophète, il dit, c'est quoi comme viande? Il dit, Rasulallah, il a al-herba, salamandre. Le prophète, il fait un geste comme ça, mais la ya'ibu ta'am. Le prophète, il disait jamais quelque chose de mauvais. Il fait pousser un petit peu la viande. Et Khalid ibn Walid dit, tu veux pas, ya Rasulallah? Tu veux pas le manger? Il dit, non, donne. Et il prend la viande, il la mange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le prophète était un humain. Il y a des choses qu'il aimait, il y a des choses qu'il n'aimait pas. Et donc, est-ce que ça fait partie de la sunna? Non, ça c'est un comportement humain. Comprends ça. Il y a d'autres choses qui sont spécifiques au prophète. Exemple, siyam ul wisal, la continuité dans le siyam. Le prophète nous a interdit de faire un jeûne continu. Tu jeûnes toute la journée, arrive le maghreb, tu ne coupes pas ton jeûne et tu continues de jeûner jusqu'au lendemain. Ça c'est interdit. Et d'ailleurs, même la science, même la médecine va vous dire que vous allez produire de l'acétone qui est très mauvais pour le corps si vous faites un jeûne continu, si vous ne mangez pas, si vous ne coupez pas votre jeûne. Ajib l'islam, Allah il a dit maïol l'ikhwa. Et le prophète, il nous interdit de faire le jeûne en continu. Il dit, ya Rasulallah, toi tu le fais. Les compagnons lui disent ça. Il dit, lestuka ahadikum, je ne suis pas comme vous. C'est Allah qui me nourrit. Vous voyez? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait des choses spécifiques à lui. Comme le fait de pouvoir se marier avec plusieurs femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait des choses spécifiques à lui. Comme le fait, par exemple, de faire Qiyam al-Layl, qui était une obligation pour lui. Vous imaginez si Qiyam al-Layl était une obligation pour nous? Eh bien, tout ça, c'est la sunna, ayyuha al-ikhwa. On parle de la sunna. Maintenant, on peut accoler le mot sunna, parce que c'est un mot polysémique. Qu'est-ce que ça veut dire, polysémique? Il a plusieurs sens. On peut l'accoler à Dieu, à Allah, subhanahu wa ta'ala. J'aime pas le mot Dieu. Parce que ça vient de Dieu, ça vient de Astaghfirullah, ça vient des Grecs et tout. Bon, le mot Allah. Accolé à Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullah, c'est quoi? La maladie, la mort, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, la médication, hadi sunnatullah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, man sanna sunnatan hasana, celui qui trace le chemin de quelque chose, qui nous met en place quelque chose dont les gens ne savaient pas faire avant. فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Imagine, tu vas dans un endroit, tu crées une école, un orphelinat, tu crées un puits, tu mets quelque chose que les gens ne savaient pas faire. Eh bien, si les gens te suivent derrière, eh bien, tu as la récompense de ce que tu as mis en place et tu as la récompense des gens qui sont venus après toi et qui ont suivi ta sunna, qui ont suivi ton chemin. Et là, qu'est-ce que ça veut dire la sunna? Ça veut dire la voie. Ça veut dire la voie. Le mot sunna veut dire la voie. Le mot sunna, dans la gradation des règles, quand on dit sunna dans la gradation des règles, ça veut dire mendoub. Qu'est-ce que ça veut dire mendoub? C'est par opposition à l'haram et à l'wajib. Quand on fait la gradation des règles, nous avons l'obligation. L'obligation, c'est tu es récompensé si tu le fais et puni si tu ne le fais pas. Exemple, salat. El mendoub, tu es récompensé si tu le fais, mais tu n'es pas puni si tu ne le fais pas. Et le mendoub, c'est ça la sunna. C'est-à-dire que des fois, tu jeûnes le lundi, par exemple. Tu jeûnes le lundi et le jeudi. C'est une sunna. Si tu le fais, tu es récompensé par Allah. Si tu ne le fais pas, eh ben, tu n'es pas récompensé. Et il n'y a aucun mal. Ça aussi, c'est sunna. Donc vous voyez bien, les frères et les sœurs, que le mot sunna peut porter plusieurs significations et plusieurs choses. Maintenant, quelle est notre compréhension de la sunna? Si vous allez à la grande bibliothèque au Koweït, il y a ce qu'on appelle la grande mawsu'a, la grande encyclopédie sur Shama'il Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, sur les règles de bienséance, sur l'aspect éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous éduquait, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses femmes, il était avec ses compagnons, il était avec les enfants, comment il était avec ses ennemis, comment il était pardonneur. Comment il savait se mettre en colère? Pourquoi? Quand il y a une limite d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été transgressée. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a appris. C'est ça ce qu'il nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va s'arrêter sur deux événements, peut-être trois selon le temps s'il nous suffit, inshallah. Premier événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la Mecque. Il est à la Mecque, il est adossé à la Kaaba. Ah, j'ai oublié quelque chose, pardon, excusez-moi, avant de parler de ça. La sunna légifère. la sunna confirme le Coran et la sunna, alors on a dit, la sunna légifère, explicite le Coran et confirme le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-wayt taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabina haqqan ala al-muttaqin » Ayat 180 de sourate al-Baqara. Vous avez été prescrit. Si quelqu'un de vous arrive à la mort et qu'il laisse un bien, il doit faire un testament pour les parents et les proches parents et la famille. Haqqan, c'est un droit pour les pieux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après la descente des ayat al-mawarith, il nous dit « La wasiyata liwarith ». Il n'y a pas de testament pour ton fils ou ton père ou ta mère. Non, il n'y a pas de testament. Pourquoi ? Parce que son droit est légal. Il est fourni par Allah, subhanahu wa ta'ala, il a été donné par Allah. Il est réservataire dans l'héritage. Donc le prophète dit « La wasiyata liwarith ». Tu ne peux pas faire un testament. Tu dis « Mon fils, il doit toucher ça et ça et ça ». Une femme qui vous dit « Attention, quand je meurs, là, l'or, c'est les filles qui le prennent ». Et la maison, c'est pour les garçons. Non. Hadi wasiya ghayr wajiba et elle est caduque, on ne peut pas l'appliquer. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a explicité le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il prend, il dit ça et ça. Il prend la soie, il prend l'or. Il dit, hadhani haramun ala dhukuri ummati. Un homme ne doit pas porter de la soie. Et un homme ne doit pas porter de l'or. Ce sont des choses réservées aux femmes. Bon, maintenant, après avoir dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, sunna tashrah al-mutlaq fil Qur'an. Il y a des choses qui sont globales fil Qur'an. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba ». Est-ce que tout bay'a fil Qur'an, tout bay'a dans la vie est halal ? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce, il a interdit le riba, il a interdit l'usure. Est-ce que toutes les ventes sont légales ? Non. La sunna va venir spécifier ce qu'on appelle spécification, spécifier cette ayah. Qu'est-ce qu'elle nous dit la sunna ? Bay'ul haram haram. Tu n'as pas le droit de vendre le haram. Bay'ul majhul haram. Il y a des gens qui vont acheter ce qu'on appelle bihira d'Allah. Il a un champ de pastèques. On est au mois de janvier, le pastèque il sort en juin et en juillet. Et il dit, je t'achète ton prêt aujourd'hui. Alors que les fruits ne sont pas là. On n'a pas le droit d'acheter quelque chose qu'on ne possède pas et qu'on ne voit pas. Mais tout ça, c'est la sunna qui va nous le donner. Je ne vais pas m'étaler sur ça. On va avoir des cours sur ça, incha'Allah, bi'idhnillah. Maintenant, je reviens à notre histoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est assis à la Kaaba. Et il y a quelqu'un qui vient. Écoutez bien, les frères. Donnez-moi votre attention. C'est très important. Regardez comment il nous éduque, le prophète. Le prophète, il est adossé à la Kaaba. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Khabbab ibn al-Arat, qui vient, qui lui dit à Rasulallah, regarde Yasir, regarde sa mère, Soumaya, elle vient de mourir, on l'a tuée, sous la torture. Ya Rasulallah, regarde mon dos, ils ont pris de la fer, ils ont pris du fer, ils ont chauffé le fer, et ils l'ont mis sur le dos. Vous imaginez ce que les premiers compagnons ont subi. Il dit, ya Rasulallah, ala tad'u lana, pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous soulage? Pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite ? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il lui dit, regardez, écoutez ce qu'il lui dit. Il dit, Nahu kana fi man kana min qablikum ou la qablakum. Il y avait des gens avant vous. Il y avait des gens qui étaient sur la rectitude. Sayyidina Moussa, les gens qui étaient avec lui, c'était des musulmans. Sayyidina Isa, les gens qui étaient avec lui, c'était des musulmans. On creusait la terre. On mettait la personne. On ramenait une scie. On le coupait en deux. مَا يَرَدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِي. On le tranchait, pardon, en deux. مَا يَرَدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِي. Et ça, ne le retournez pas sur sa foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous apprend le prophète ici ? Il nous apprend, arrête de te plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Pourquoi ? Parce que si tu as décidé d'être sur le chemin d'Allah, أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Est-ce que tu penses que parce que quand tu dis tu es musulman ou tu es croyant et tu crois en Allah, c'est fini, خلاص, tu vas rentrer au paradis? Non, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver. Et regardez l'épreuve. Regardez l'épreuve. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ça commence par soi, la réforme de soi. Je me réforme moi, je suis sur la rectitude, mais je n'accepte pas l'injustice. Je n'accepte pas tout ce qui est mauvais dans la société. Donc je me lève contre l'injustice. Et quand tu te lèves, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Et quand tu te lèves contre l'injustice, on va pas te laisser tranquille. On va pas dire que toi tu es un homme bien. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Ma qala salihun. Allah subhanahu wa ta'ala il ne châtie pas les cités quand les gens sont réformateurs. Quand les gens se lèvent contre l'injustice. Et cette injustice, tu dois la dénoncer. Tu dois dénoncer l'injustice et dire « al-haq wa haq ». On doit dénoncer le fait qu'on fasse une circulaire. Alors, je ne sais pas si elle existe ou pas, on en parle tout le temps. Mais moi, je ne l'ai pas vue, cette circulaire contre la baïa. Le pays, ta feuille, ta sang, mais on fait une circulaire pour que nos filles ne mettent pas une baïa. On dirait que la pudeur est devenue quelque chose d'interdit dans ce pays. Vous imaginez ? Bon, on crée l'ennemi, en fait. On crée un ennemi pour avoir quelque chose qu'on appelle une unité nationale. On crée un ennemi. Qui c'est l'ennemi ? C'est les musulmans aujourd'hui. On nous disait les islamistes qui veulent prendre le pouvoir par le... Bon. Maintenant, c'est les musulmans. Donc sachez que si tu es musulman, tu vas subir les coups de boutoir. Tu vas pas être tranquille. Donc ça fait partie de la vie, ça. Maintenant, une deuxième histoire, et je m'arrêterai là, Inch'Allah. Il y en a beaucoup dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre fois, bi'idhnillah. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est assis avec ses compagnons. Il leur raconte l'akhira. Il leur raconte l'jannah, ce que c'est l'jannah. Il leur raconte quoi ? Il leur raconte que cette vie est éphémère et qu'elle ne vaut rien, cette vie. Il leur raconte ce qui les attend chez Allah. S'ils se dévouent, s'ils dévouent leur vie et leur mal, leur argent, tout ce qu'ils possèdent, et ils se dévouent pour Allah, regardez la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur dit... Inna min ummati 70,000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Parmi ma communauté, il y a 70 000. Alors, il y en a qui disent 70 000, c'est le chiffre. Mais il y en a d'autres qui disent 70 000. C'est pas seulement le chiffre. Pour dire que c'est un grand nombre. Et parmi les 70 000, chacun des 70 000 ramènera 70 000 autres avec lui. Faqama Ukash ibn Muhsin. Quelqu'un qui était beau, qui était jeune, qui était un grand cavalier chevaleresque. Il dit « Ya Rasulallah, ad'u Allah an akuna minhum. » Demande à Allah que je sois parmi eux. « Qala anta minhum. » « Qama rajulun thani. » Regardez, la ilaha illallah. Un autre homme se lève. Il dit « Ya Rasulallah, ad'u Allah an akuna minhum. » « Qallu sabakaka ilayha Ukasha. » On va revenir sur la leçon de cette histoire. Ukasha ibn Muhsin hada, il va vivre jusqu'à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et arrive Hurub al-Ridda, c'est-à-dire les gens qui ont délaissé l'islam après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu, le calife, va les combattre. Omar, il dit, comment tu vas les combattre alors qu'ils disent la ilaha illallah? Ils disent, ils ont refusé de donner le zakat. Ils ont refusé de faire la prière. Wallahi la uharibuhum. Je vais les combattre pour un siwa qui est donné au prophète. Fi Hurub al-Ridda, il y a quelqu'un qui va dire « Moi, je suis un prophète. » Ok ? C'est Usayd... Enfin, j'ai oublié son nom, mais... « Hada Usayd, il va tuer Ukash ibn Muhsin. » Et Ukash ibn Muhsin va tomber en martyr dans cette bataille. Les années passent. 10 ans après, ce Usayd qui a tué Ukash ibn Muhsin, il vient à Médine pour déclarer son islam. Et il dit à Omar al-Khattab, « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah. » Et Omar al-Khattab, il lui dit, « Anta qatalta Ukasha ? C'est toi qui as tué Ukasha ?» Il dit oui. Il dit, « Wallahi la yuhibbuka qalbi abadan. Hatta tuhibba al-ard al-dam. Mon cœur ne t'aimera jamais, jusqu'à ce que la terre adore le sang. » Il dit, « Awa yamna'uni dhalika min haqqiya amir al-mu'minin ?» Qala abadan. Est-ce que ça va me priver de mes droits ? Il a dit non, jamais. Jamais. Regardez l'islam, ce qu'il nous apprend. 634, Omar al-Khattab. 634, quand il a mis les allocations et quand il a mis l'allocation vieillesse. Et quand 634, ayyuha al-ikhwa. Regardez où était le monde. Il dit, « Yamna'un nadaka min haqiqa lala. » Qala, tant pis, c'est pas grave. Mais on va vivre. Même si tu ne m'aimes pas, on va vivre avec. Alors la leçon de cette histoire... Premièrement, Ukasha, son cœur était fil akhira, son cœur était avec Allah. Quand le prophète il parle de l'akhira, il dit « Rasulallah, demande à Allah que je sois parmi eux ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit pas ça. Il dit « Anta minhum ». Pourquoi ? Parce que ta ferveur, ton cœur, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il te donne cette position au paradis alors que tu es fi dunya. Et d'ailleurs, après ça, Ukash, elle était très respectée par les compagnons. Et il va rentrer au paradis, vous imaginez ? Le deuxième, il n'avait pas cette spontanéité. Il était dans le suivisme. Donc le prophète dit non. Akash a été premier. Et lui, il va rentrer au paradis. Deuxième leçon, avec Omar ibn al-Khattab. Des fois, les gens se plaignent. « Ils nous aiment pas. Ah, les musulmans. Ah, regardez. On nous a fermé la mosquée. » « Comme on dit en arabe. « Nishad ban ala rohak. » Lève-toi. Lève-toi et marche. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est jamais arrêté. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. C'est que tu œuvres jusqu'à ce que tu rencontres Allah. Tu as fermé la mosquée, ouvre une autre. Utilise le droit. Combat avec les moyens légaux que tu as. Ne laisse pas les choses. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y aura toujours des gens qui ne t'aiment pas. Dans ton voisinage, dans là où tu travailles, là où tu es, il y aura toujours des gens qui ne t'aiment pas. Mais c'est ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab à celui qui a tué Ukash ibn Muhsin. Et c'est ce que ça nous apprend à travers les événements par lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous racontait des choses, ou il nous apprenait des choses pour nous éduquer. Je voulais parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses épouses, mais une autre fois, incha'Allah, je ne vais pas tarder sur vous. « Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, fa astaghfiruhu yaghfir lakum, innahu wal ghafurur rahim. » Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam. De la même chose, ayyuhal ikhwa, le prophète, quand les gens venaient le voir et qu'ils lui posaient une question, il regardait la personne et comment elle était. Et lui explique quelle est la meilleure chose qu'Allah il aime. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient et il dit « Ya Rasulallah, ma hiya ahabbu al-a'mali ila Allah. » Quelle est la meilleure œuvre que je puisse faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime ?« Qala as-salatu ala waqtiha. » Que tu fasses la prière à l'heure quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'appelle. Parce que la personne n'était pas assidue à la prière. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous apprend. Jamais il n'a blâmé quelqu'un. Jamais. Quand il voulait montrer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait ? Il prenait le positif de cette personne. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit sur Abdullah ibn Umar, « Ni'mar rajul Abdullah, law kana yaqumu al-layl. » C'est un homme extraordinaire, Abdullah ibn Umar, si seulement il faisait la prière de nuit. On dit que Abdullah ibn Umar, à partir de ces dires-là, il n'a jamais arrêté Qiyam al-Layl. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui était avec lui. Il dit, « Rasulallah, cette personne-là, je l'aime. » Il dit, « Est-ce que tu lui as dit ?» Il dit, « Non. » Il dit, « Va lui dire. » Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il mettra l'amour entre vous. Et regardez, je finis avec ce hadith. Quand il y a des gens qui nous disent, tu rencontres quelqu'un de Kitab, Al-Kitab, tu leur dis pas « Salam alaykoum ». Tu rencontres quelqu'un qui n'a pas la barbe, tu lui dis pas « Salam alaykoum ». Il dit le contraire de ce que nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Wallahi la tu'minu, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. » Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous auriez la foi. Et vous n'aurez la foi que lorsque l'amour se répand entre vous. « Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum. » Dois-je vous signaler quelque chose? Quand vous le faites, vous allez répandre l'amour entre vous. Afshu salam baynakum. Répondez salam entre vous. Dis salam à toute personne. Et vous savez, allez aujourd'hui dans nos pays d'origine. Allez au Maghreb. Vous allez voir, ne restez pas dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, on a perdu ça. Mais allez dans les campagnes. Vous allez voir que les gens, ils passent devant vous, ils ne vous connaissent pas. Mais vous disent salam alaykoum. Ils sont restés sur le fitra. Quand des gens, pardon, veulent dénaturer notre fitra de musulmans. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم.